Chapitre 31. La circulation devient plus dense à mesure que Yona approche de Stockholm. Des flocons de neige tourbillonnent dans l'air et se dissipent sur la chaussée mouillée de l'autoroute. Il n'a pas le courage de se remémorer comment il avait organisé la mort de Suma et de Lumi pour leur faire vivre une toute autre vie. Nils Olen, plus connu sous le nom de l'Aiguille, l'avait aidé, sans grand enthousiasme cependant. Il comprenait que c'était la meilleure chose à faire dans l'hypothèse de l'existence d'un complice. Mais si Yona se trompait, c'était une erreur impardonnable. Au fil des ans, ce doute a pesé comme un deuil sur le corps maigre du médecin légiste. La clôture du cimetière Nora défile derrière les vitres de la voiture. Et Yona se souvient du moment où les urnes de Suma et de Lumi furent inhumées. La pluie crépitait sur les parapluies noirs et frappait les rubans de soie qui décoraient les couronnes mortuaires. Yona et Samuel poursuivaient leurs recherches chacun de son côté, mais ils n'avaient plus aucun contact. Leur sort réciproque dressait un mur entre eux. 11 mois après la disparition de sa famille, Samuel arrêta les recherches et reprit son travail. Il tint bon 3 semaines après avoir abandonné tout espoir. Tôt le matin, par une magnifique journée de mars, il se rendit dans sa maison de campagne. Il descendit à la plage, où ses fils avaient l'habitude de se baigner, dégaina son pistolet de service, engagea une cartouche et se tira une balle dans la tête. Lorsque Yona reçut le coup de fil de son chef l'informant de la mort de Samuel, un épouvantable froid l'envahit. 2 heures plus tard, il se rendit en grelottant chez le vieil horloger dans la rue de Roslagsgatan. C'était bien après l'heure de la fermeture, mais le vieil homme était encore en train de travailler parmi des monceaux de montres, la loupe coincée devant son œil gauche. Yona frappa sur la vitrine et l'homme vint lui ouvrir la porte. Lorsqu'il quitta l'horlogerie, au bout de 15 jours, il avait perdu 7 kilos. Il était pâle et tellement faible qu'il s'arrêtait tous les 10 mètres pour se reposer. Il vomit dans le parc qui, plus tard, allait recevoir le nom de la chanteuse de jazz Monica Zetterlund, puis continua son chemin en titubant. Yona n'avait jamais imaginé qu'il allait perdre sa famille pour toujours. Il renonçait à voir et à toucher sa femme et sa fille pendant un certain temps, plusieurs années peut-être. Mais il avait l'intime conviction qu'il trouverait un jour l'ombre de Jurek Walter et l'arrêterait. Yona était certain qu'il dévoilerait leurs crimes, ferait la lumière sur leurs méfaits, en révélerait chaque détail. 10 ans plus tard, cependant, il n'avait pas plus avancé qu'au bout de 10 jours. Rien ne lui permettait de progresser. La seule preuve concrète de l'existence d'un deuxième homme était l'exécution de la sentence prononcée par Jurek contre Samuel. Officiellement, il n'y avait aucun lien entre Jurek Walter et la famille de Samuel. La disparition de sa femme et de ses enfants était considérée comme un accident. Bientôt, il n'y eut plus que Yona pour croire que le lieutenant de Jurek Walter les avait enlevés. Malgré cette conviction, il commença à accepter l'idée d'un match nul. Il ne trouverait pas le complice, mais sa famille était encore en vie. Il cessa de parler de l'affaire, mais comme il ne pouvait pas exclure d'être surveillé, il était condamné à la solitude. Les années passaient, et la mort fictive ressemblait de plus en plus à la mort réelle. Il avait vraiment perdu sa fille et sa femme. Yona arrête sa voiture derrière un taxi devant l'entrée principale de l'hôpital Söder, sort sous la légère averse de neige et franchit la porte tambour vitrée.